Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi.
Qu'il est bon d'être dans sa présence. Amen. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Gloire à Jésus. Merci aux bandes, c'est plus facile avec vous. Gloire à Jésus. Qui sait de quoi on va parler ce soir? Vaut mieux. Merci Pascal. Merci Charles. Merci à mes pasteurs qui nous encouragent et qui nous donnent la possibilité de grandir à leur côté dans le ministère et servir le roi des rois. C'est un privilège. Ce n'est pas quelque chose qui est dû. Ce n'est pas parce que Dieu nous appelle que ça veut dire que c'est automatique. Nous devons apprendre à nous soumettre aux autorités qu'il nous donne pour nous faire grandir, pour nous émonder, nous corriger. Vous savez, souvent quand on se soumet, on pense « Ah, c'est super, on va apprendre, on va observer. » Mais c'est aussi, et beaucoup, de corrections nécessaires pour grandir. Donc, lorsque vous servez dans la maison et qu'il y a une correction qui vient, rendez gloire à Jésus, dites « Amen ». Moins d'amen. Ce soir, nous terminons la série que nous avons commencée qui s'appelle « Christ, notre lumière ». Et on a eu beaucoup d'enseignements à ce sujet. Je vous encourage à réécouter, ils sont disponibles en ligne. Et vraiment ce soir, nous voulons écouter ce que le Maître a à nous dire. Beaucoup d'enseignements, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et le Maître nous encourage ce soir à préparer le terrain pour que nous puissions être au bénéfice des messages qu'il nous donne et qu'il nous a donné sur cette série. Pour cela, nous allons prendre le texte dans Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 8. Il est dit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, ce soir, nous allons nous appuyer sur ce passage tout le long et sur cette parabole où Jésus parle à la foule. En réalité, il ne parle pas qu'à la foule. Il parle à deux audiences. Il parle à la foule et à ses disciples. Nous arrivons à un tournant de l'évangile de Matthieu dans ce passage. Quelques versets avant, le Seigneur vient d'établir une vérité spirituelle selon laquelle les liens spirituels sont plus forts que les relations terrestres. Au chapitre 12, verset 50, il est dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc imaginez Jésus vient de donner cette vérité, cette réalité spirituelle, où on vient lui présenter sa mère Et il se tourne vers ses disciples et dit, « Voici mon frère, ma mère, mon père. » Pas mon père, ma mère. Sa famille, c'est ses disciples. Pas mariés. Et ça, c'est une réalité du monde spirituel que les pharisiens ont eu du mal, et les scribes, ils ont eu du mal à avaler cette réalité. Eux qui cherchaient toujours à conseiller Jésus, ou au moins qui préméditaient de le faire. Et Jésus vient définir ce qu'est une famille selon le royaume de Dieu. Ce soir, nous allons voir comment Jésus pose son regard sur nos cœurs, afin que nous aussi, nous puissions examiner nos cœurs et voir si nous sommes alignés aux mêmes principes que le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle en parabole, lorsque Jésus parle en parabole, la raison est simple. On pense qu'il veut cacher la vérité à certaines personnes, et c'est vrai. Il veut cacher la vérité à certaines personnes. Mais ceux qui sont... Pourquoi vous me regardez comme ça? Jésus veut cacher certaines vérités. Vous le croyez? On va expliquer. Lorsque Jésus parle en parabole, il parle à une audience, à deux audiences. Celles à qui il est donné de comprendre, comprendront. Ceux qui ne sont pas prêts à comprendre, qui ne veulent pas, ils ne peuvent pas comprendre la parabole. Et on peut voir ça en disant, mais c'est injuste, ou du moins, bon, c'est le maître, donc on dit rien. Mais sachez que dans le royaume de Dieu, lorsque vous avez reçu la vérité, vous êtes responsable. Et donc on vous juge selon la responsabilité, selon la compréhension et la vérité que vous avez reçue. Donc s'ils reçoivent la vérité et qu'ils la rejettent, ils sont condamnés. Donc par amour, il part en parabole. C'est par amour qu'il parle en parabole. Pour que le moment venu, on puisse aller chercher cette vérité. Et donc, à ce moment-là, le royaume de Dieu n'est pas entré encore dans la phase où nous, l'Église, sommes déjà appelés Église. Parce qu'il faut comprendre que Jésus, avant sa résurrection, le royaume de Dieu n'était pas encore établi dans notre dispensation à nous. Quand on regarde le royaume de Dieu, il a été annoncé, il y a plusieurs phases. Après l'enlèvement, il y a une autre phase du royaume de Dieu qui se manifeste différemment, etc. Mais cette phase où Jean-Baptiste vient annoncer le roi, jusqu'à l'enlèvement, c'est une phase. La phase où Jésus est là, c'est la phase de transition. Il nous emmène de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et il est en train de nous parler selon les principes que nous, l'Église, nous allons devoir vivre en tant que citoyens du royaume de Dieu. Donc lorsque Jésus nous parle ici, il est en train de nous rappeler que le royaume de Dieu est bien plus large que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Il est dans son présent, mais il est en train de penser à nous aussi en même temps lorsqu'il parle en parabole. Ce royaume de Dieu est le domaine dans lequel le gouvernement de Dieu est reconnu. Ça veut dire que tout lieu que Dieu gouverne, c'est son royaume. Donc si Dieu nous gouverne, nous faisons partie totale de son royaume. Amen. Nous sommes un territoire sur lequel il gouverne. Ce royaume est caractérisé par son roi et son territoire. Et alors cette parabole, lorsque Jésus la donne, il veut transmettre cette vérité afin que ceux qui recherchent la compréhension puissent recevoir cette vérité et puissent vivre par cette vérité. Lorsqu'on regarde au verset 10, toujours dans le chapitre 13, il est dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Aux disciples, il leur a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Les mystères, là encore, c'est quelque chose qui est caché. Mais rappelons-nous que Jésus nous donne les clés du royaume pour ouvrir ces mystères. Donc ne cherchons pas à vivre comme le monde, cherchons à vivre comme le maître veut qu'on vive. Il nous donne les clés pour ouvrir ces principes, ces mystères cachés depuis la fondation du monde, réservés pour nous. Les prophètes ont aperçu dans l'esprit ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Ils aspiraient à vivre ce temps que nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, la Bible va nous dire que de toute personne née de femme, Jean-Baptiste, le dernier prophète, est le plus grand. Mais le plus petit dans ce royaume dont nous faisons partie, est plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est une réalité spirituelle. S'il a été donné à Jean-Baptiste d'annoncer la venue du Seigneur, c'est ça qui a fait qu'il était plus grand, à cause de la révélation imminente de l'arrivée de Jésus. Mais nous, nous avons reçu le privilège d'avoir celui que les prophètes ont annoncé en nous. Et on se croit petit. Quel dommage. Plus grand que Jean-Baptiste et tous ceux qui l'ont précédé, selon ce que Dieu dit à travers son Fils Jésus-Christ. Et on se croit encore petit. Jésus va prendre le temps de donner l'explication de cette parabole. Habituellement, Jésus n'explique pas toutes les paraboles. Il les donne, certains, mais cette parabole, celle-là, il va prendre le temps de l'expliquer. Et ensemble, nous allons regarder ce qu'il va nous dire. Pour cela, nous allons prendre d'abord le semeur et la semence. Il nous est dit que dans le verset 4, un semeur sortit pour semer. Ben, si c'est un semeur, c'est qui sème ? Es-tu un semeur ? On verra ça plus tard. En tout cas, le semeur est sorti de chez lui pour semer. C'était son travail d'aller semer. Donc, il avait un but précis, semer. C'est simple. Deuxième chose qu'il avait, des semences. Parce que s'il va semer, c'est qu'il va apporter des semences. Vous êtes d'accord avec moi ? Aucun semeur ne jette sa semence sans imaginer la récolte. On parle du semeur. Il sort de chez lui, il s'apprête, il prend son sac et il sort. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas aller manger un Américain. Il dit un semeur. Ça veut dire qu'il était caractérisé par sa fonction. On n'a pas dit que c'était un moissonneur, on a dit c'est un semeur. Donc, à chaque fois qu'on le voit, il est en train de semer. Et lorsqu'il sort de chez lui, c'est pour semer. Il ne quitte pas sa maison si ce n'est pour semer. Ça, c'est le semeur. Et il ne part pas sans la semence. Et lorsqu'il sème, il imagine toujours la récolte. Je n'ai jamais vu un agriculteur planté sans imaginer la récolte. Ça serait absolument de la folie. On plante, on sème, on se dit, là, si je mets deux ou trois, ça a apporté tel fruit. Une graine, ça a apporté tel. L'expérience me montre que si j'en mets trois, il y en a une qui va peut-être sortir. Il y a une chance qu'il sème en conséquence de ce qu'il attend comme récolte. Vous me suivez ? Quel courage de voir ce semeur qui sort et qui jette sa semence et qui voit sa semence tomber sur plusieurs terrains. Il a le mérite de toujours continuer à semer. Lorsqu'il jette sa semence, la Bible nous dit une partie tomba sur le long du chemin. Ça veut dire quoi ? Des fois, on pense qu'il est allé d'abord semer sur la partie du chemin. Non, imaginez que le terrain à semer, c'est l'estrade. Et je viens, je commence à mettre des graines, et puis je me rends compte qu'il y en a une qui tombe là, qui n'est pas sur la limite ici. je ne jette pas là volontairement, mais en essayant de semer pour prendre tout l'espace qu'on doit utiliser, une partie de la semence tombe par terre. Donc, ici, nous pouvons reconnaître que ce semeur est obéissant dans sa nature et ce jusqu'au bout. Il ne lâche rien. La semence est alors ici ce qu'on appelle la parole de Dieu. On va prendre ça comme indication parce que c'est ce que Jésus va nous expliquer. Cette parole, lorsqu'elle rentre dans le sol, produit un fruit. Vous me suivez jusque-là ? Oui ? Lorsque la semence de la parole de Dieu rentre dans le sol, elle produit un fruit. Maintenant, allons étudier les quatre types de sols. Les sols ou les champs représentent les hommes. Tout se passe à travers le cœur de l'homme. Ces sols révèlent les différents types de cœurs qui existent. Le premier sol, où on dit le long du chemin, au verset 4, où on dit « un semeur sorti pour semer, comme il semait une partie de la semence, tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Donc là, on voit un élément nouveau, les oiseaux. Comme on a dit, un semeur fait quoi dans la vie ? Il sème. En sortant semer, une partie de sa semence tombe le long du chemin. Ce qui est précieux dans cette parabole, une petite parenthèse, c'est que la Bible ne nous cache pas l'échec du semeur. Petite parenthèse. S'il veut maximiser sa semence, il faut que toute la semence tombe dans la bonne terre. Mais une partie de cette semence tombe à côté. Et il sait que c'est un échec. Mais ce n'est pas grave. Parce que la parole de Dieu ne le cache pas, parce que cet acte qui se passe lorsque une partie de la semence tombe à côté nous montre la miséricorde de Dieu. Même si Dieu nous demande de faire certaines choses, il y a des moments où on va échouer. On ne va pas toujours réussir. Mais Dieu est capable de multiplier. Donc, lorsque le semeur met une partie sur cette terre, on voit que ce type de cœur va être révélé par Jésus au verset 19. On va aller chapitre 13, toujours verset 19. Et Jésus va expliquer ce premier type de terre, qu'est-ce qu'il représente. Il est dit ceci. « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alors, la parole est semée et il y a des cœurs qui entendent et ne comprennent rien à ce qui se passe. Ce n'est pas forcément volontaire, mais ils ne comprennent pas. Mais ne font pas non plus l'effort d'aller chercher à comprendre. La Bible dit que le malin, les oiseaux qui viennent manger cette semence, les oiseaux représentent Satan et ses envoyés, qui viennent piquer cette semence. Mais ils ne piquent pas tout ce que vous avez, ils piquent juste cette semence et ils vous laissent tout le reste. Parce qu'ils savent que ce qui fait la différence, c'est cette semence. Donc le malin vient et enlève cette semence qui a été semée. Ça, c'est le cœur qui entend le message du royaume, la parole de Dieu, et ne la comprend pas. Vous comprenez mieux les paraboles ? Jésus nous explique que celui qui entend la parole et ne la comprend pas est perdu. Car celui qui rôde cherche toujours comment prendre la parole qui est semée. Il n'enlève pas les rêves, les désirs charnels, les ambitions professionnelles. Il enlève la parole et connaît le résultat à l'avance. Lorsqu'on reçoit une parole et qu'on ne va pas chérir cette parole, on ne va pas chercher, notre cœur est semblable à cette terre qu'on appelle le long du chemin. Il y a des chemins pour aller vers d'autres choses, mais pas Dieu. Ensuite, Je vais peut-être revenir dessus. Au Proverbe chapitre 4, verset 7, il est dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » J'aime bien ce verset. C'est un verset qui m'a beaucoup aidé dans ma jeunesse. Parce que j'avais compris, par la grâce de Dieu, que si je ne comprenais pas quelque chose que Dieu était en train de me dire, je pouvais passer à côté de beaucoup de choses. Donc, si Dieu te parle dans un rêve et que tu ne comprends pas le rêve, déjà le fait de l'écrire, tu t'es déjà sorti de premier terrain. Maintenant, ce que tu en feras déterminera quel terrain tu vas être. Mais si Dieu te parle, note, ne fais pas confiance à ta mémoire. Parce que l'oiseau va venir et va prendre la parole et tu vas dire, je ne me rappelle plus. Seigneur, c'est quoi tu avais dit encore? On ne donne pas les perles aux pourceaux, nous dit la parole. Ça veut dire quoi? On ne va pas donner une parole tant que la personne n'est pas prête à chérir cette parole et valoriser cette parole. Tu veux recevoir plus de Dieu? Chéris déjà ce qu'il t'a donné. Travaille-le, maîtrise-le, mange cette parole qu'il t'a donnée. Ensuite, les endroits pierreux. Au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Là, maintenant, on rentre sur une autre forme. Là, c'est intéressant aussi. Ça, c'est les personnes qui découragent le semeur. Alléluia, Dieu m'a dit, le feu. Deux semaines après, plus personne. Il a reçu la parole avec joie. Sur le moment, ça le travaille, dire, waouh, super, avec joie. Mais il n'y a pas assez de profondeur. Les pierres ont pris trop de place. Donc, il n'y a pas assez de place pour que la terre y soit. Donc, cette semence, qu'est-ce qui se passe? Elle va mourir. Au moindre coup dur. Ah, je savais. Non, c'est... Ces pierres-là sont beaucoup de choses qu'on ne veut pas régler. L'amertume, la jalousie, l'envie, être envieux. Tu vois ton frère, Dieu l'a béni, mais pourquoi lui, pas moi? Et quand on donne la parole de bénédiction, reçois, amen, oh, sois avec joie. Quand il arrive à la maison, il voit facture EDF, il fait, ah, je ne sais pas si Dieu va faire, machin. Et il voit son frère dimanche, samedi d'après, et la jalousie qui est là, l'envie, l'envieux, tout ça. Et ça, ce n'est pas réglé. Donc quand une vraie persécution arrive, un vrai coup dur, qu'est-ce qui se passe? On taille chemin? Pourquoi? Parce qu'on a laissé, on n'a pas travaillé notre cœur. Ce type de sol correspond à l'auditeur qui entend la parole et qui réagit avec joie. Mais celui qui sème apprend vite que les sourires et les acquiescements ne sont pas signes de conviction, de justice et de péché. Vaut mieux encore quelqu'un qui pleure. Au moins, on se dit, la parole a travaillé. Mais juste la joie, le sourire seulement. Suspect. Tu es suspect. Tu es suspect. C'est Jésus qui dit, c'est pas moi. Hein? Tu arrives avec la joie, c'est super. Mais est-ce que cette joie est profonde? Est-ce qu'elle naît de ce que la parole vient chercher les choses en profondeur? Ou elle naît de ce que tu ambitionnes déjà dans ton cœur, je veux ça, et Dieu va donner. Donc Dieu devient distributeur. Papa donne. Mais comment papa donne, il ne change pas le cœur pour que toi-même tu saches comment faire pour donner aux autres? Donc ça c'est le cœur où, dans ce cœur, il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Il faut jeter ces cailloux pour laisser la place à la terre, pour que le message du royaume de Dieu puisse venir s'implanter et qu'il puisse et s'élargir en nous. Il abandonne ainsi son assemblée, rejette ensuite la parole de Dieu et retourne embrasser les pratiques du monde. Ça, c'est le deuxième type de cœur, le cœur pierreux. Ensuite, vient l'autre type de cœur parmi les épines. Et là, on voit au verset 22, il est dit ceci. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Je n'avais pas pris beaucoup de notes sur ce sujet, sur celle-là. J'avais mis juste mon verset. Et parce que j'étais concentré sur fructifier. Mais pendant que je me prépare, le Seigneur m'a dit, parle à l'Église à ce sujet. Pourquoi ? Il est dit ici, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est des gens qui ont déjà commencé à manifester un peu de fruits, souvent des chrétiens longue date. Il peut donner sa date de naissance spirituelle, né de nouveau, telle date. Il peut dire quand il a eu le baptême du Saint-Esprit, donne la date. Mais en marchant avec Jésus, la bénédiction qui enrichit arrive, sauf qu'il commence à se dire, je suis arrivé. Et là, les soucis du monde, de ce siècle, deviennent une voix qui parle plus que la voix de Dieu. Venir à la célébration, qui est une directive que Dieu nous donne, de nous retrouver pour communier ensemble, devient une option et plus un ordre de Dieu. Donc, un coup on vient, un coup on ne vient pas, parce que c'est une option. Et puis, ce n'est pas grave parce que je ne suis pas dans le besoin, parce que je sais que je peux m'en sortir. Si je réfléchis bien, je fais comme ça, je vais m'en sortir. Et beaucoup dans l'Église, dans l'Occident, sont là. Et ce que Dieu me disait à ce sujet, c'est que les épines là, c'est d'abord le confort. Quand on devient trop confortable, Dieu devient une option. On n'a pas de problème à se dire sur un coup de tête, allons au restaurant. Et on va au restaurant et on se dit, ah ben celui-là j'aime bien, on mange bien là, on y va. On n'a pas de problème sur un coup de tête, ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans le budget. Et on sort une facture de 60-70 euros au restaurant, ça ne dérange pas, on a bien mangé. Et quand on arrive dans la maison de Dieu, on cherche le plus petit billet dans le portefeuille, quand on le cherche, pour faire une offrande à Dieu. Les épines ou les ronces sont dans le cœur. Dieu est devenu une option pour toi. Les soucis du monde, la richesse, le confort a pris le dessus. Et Dieu devient une option. Mais Dieu ne travaille pas avec les gens pour qui il est une option. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais si tu es tiède, il te vomit. Quand Jésus donne cette parabole et qu'il prend le temps de l'expliquer, c'est parce qu'il sait que toutes les autres paraboles qui arrivent derrière dépendent de celle-ci. Dans cette parabole, tout dépend de toi et pas de Dieu. C'est toi qui as la charge de ton cœur. Pas ton pasteur, pas ton église, pas ta femme, pas ton mari. Toi tout seul. Et beaucoup sont là aujourd'hui. Je n'avais pas fait de notes dessus. Je comprends mieux pourquoi. On veut que Dieu nous bénisse. C'est quand la dernière fois que tu as béni Dieu? Au passage, Dieu n'a pas besoin de bénédiction. Il se bénit lui-même tout seul. Il se suffit à lui-même. Mais le geste de reconnaissance... Toi-même, tu es riche. Ton fils commence dans la vie. Il a son premier salaire. et il vient t'offrir un cadeau. Ça réchauffe ton cœur quand tu es un père. Un vrai père, ça te réchauffe le cœur. Tu n'as pas besoin de ce cadeau. Tu peux l'acheter 10 fois, 100 fois. Mais la source de ce cadeau réjouit ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes alléluia, tout ça. Non. Ça, c'est pour révéler nos cœurs, nous donner une image imprimée de notre cœur devant lui. Donc, le semeur continue à semer et il sème. Où est ton cœur? Tu préfères te disputer avec ton frère, avec ta sœur, ton mari, ton épouse, que dire j'ai tort. Même si je n'ai pas tort, ok. J'accepte de prendre les torts afin qu'on ait la paix dans la maison. Les ronces ont pris le dessus. Et beaucoup en sont là ce soir. Déjà un peu de fruit. On voit un peu de fruit. On voit que cet arbre est un pommier parce qu'il y a des pommes qui commencent à se manifester. Mais si tu vas manger la pomme, elle est amère. Et même, elle n'arrive pas à maturité. Elle reste petite comme ça. Un fruit qu'on ne peut pas manger. Parce que les ronces ont pris le dessus. J'ai plein d'arbres dans mon jardin et il y en a certains qui donnent moins que d'autres. Et il y a un arbre qui couvre quasiment 2-3 arbres et il est plus grand. Et le fait que le soleil n'arrive pas là, même l'herbe ne pousse pas en dessous. Il cache, il étouffe tout le reste. Donc si on veut du fruit de cet arbre, il faut couper ce grand arbre. Quels sont les arbres que tu dois couper dans ta vie? Ensuite, ceux qui ont le cœur qui ressemble à cette terre parmi les épines, ça veut tout simplement qu'ils ont dit, ça veut tout simplement dire qu'ils ont la pensée divisée. Il doit souvent faire des choix entre Dieu et le reste. Parce qu'il n'a pas décidé pleinement d'obéir à Dieu. Vous savez pourquoi je parle du restaurant et la note au restaurant? C'est ce que j'ai vécu. Un jour, je suis au restaurant et on sort une facture qui est un peu élevée. Et ça ne me dérange pas, parce qu'en allant là, je sais. Quelque part, je sais ce que ça va me coûter. Et au moment de payer, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, tu serais capable de faire ça pour moi? Tu serais capable comme ça, dans une réunion, dans une célébration, comme ça, sur un coup de tête, dire, allez, je donne 100 euros d'offrande. Aïe! Même si je ne voulais pas. La célébration qui a suivi, j'ai donné au-delà de 100 euros. Pourquoi? Je voulais me confirmer à moi-même que mon cœur était en place devant le roi. Dernièrement, Dieu est venu me voir en me parlant. Il me dit, je trouve que tu as stagné dans ta générosité. Je dis, Seigneur, tu sais, avant j'étais chef d'entreprise. Non, je suis salarié, c'est pas les mêmes... Vous savez, on essaye... Lorsque Dieu te parle sur un point, il connaît déjà où tu es. Il est en train de dire, dans le langage du royaume de Dieu, « Es-tu prêt à ce que je t'emmène dans une nouvelle dimension de générosité ?» Tout lui appartient. Mais est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que tu es prêt à enlever ces épines, ces ronces et garder le focus sur moi? Est-ce que je veux faire? Et puis vient la bonne terre. On aspire tous à être la bonne terre. Quand on se regarde dans le miroir, on dit « Je suis une bonne terre. » Ah oui, hein. Ah, je suis une bonne terre. Allons voir la lumière de la parole d'abord. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. La bonne terre représente le bon croyant qui entend la parole et qui la comprend. Il la pratique en toutes choses. Il cherche constamment la compréhension selon l'Esprit de Dieu. Il ne se lasse pas de connaître la parole. Même si tous les croyants ne produisent pas la même quantité de fruits, ces fruits, tout de même, témoignent qu'ils ont reçu la vie divine. La semence a germé jusqu'à produire des fruits. Et ces fruits, c'est des fruits qu'on peut goûter. On pense bien sûr aux fruits de l'Esprit dans Galates 5, chapitre 5, versets 22 à 23, qui manifestent le caractère de Christ. Mais on peut goûter à ces fruits. On peut goûter à la bienveillance de cette personne. On peut goûter à la bonté qui est manifestée dans cette personne, à l'amour qui l'anime. On peut goûter. C'est au type de fruit qu'on manifeste, qu'on porte, qu'on va savoir à qui on appartient. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et porter du fruit, ça veut dire quoi? Regardons juste cette partie, porter du fruit. Lorsque Jésus donne cette parabole, il est éprouvé émotionnellement. Il éprouve dans ses entrailles la passion pour ce peuple qui ne veut pas entendre la vérité. Et j'ai découvert quelque chose en préparant ce message. Vous savez, cette parabole, elle est répliquée trois fois dans la parole. On la trouve dans Marc chapitre 4 et dans Luc chapitre 8. Et dans Luc chapitre 8, verset 8, il est dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus cria à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Cria à haute voix. L'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas aller chercher un scribe ou un pharisien pour expliquer les choses. On peut aller sur Google et on va trouver des sites qui vont nous aider. Et je suis allé chercher dans une version anglaise. J'aime l'anglais, mais je préfère le français. Ceci dit, pour la Bible, j'aime comparer. Et pour moi, je savais que la Bible, dans le Nouveau Testament, parlait des larmes de Jésus où Jésus pleure. Donc Jean 11, 35, Jésus pleura par rapport à son ami Lazare. Il y a un deuxième dans Luc 19, je crois que c'est à l'arrivée de Jérusalem, où il voit la ville de Jérusalem, il pleure. Et puis le troisième, c'est quand on cite le mont des Oliviers dans Hébreux 5. Mais là, en lisant dans la version King James en anglais, je l'ai traduite pour vous, il est dit ceci. Après avoir dit ces choses, il dit en pleurant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus a dit ces choses avec une grave émotion parce qu'il était conscient que beaucoup ne cherchaient pas à comprendre ces choses. Jésus l'a dit en pleurant. Et lorsqu'on combine les deux versions, on pourrait dire « Jésus dit en pleurant à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Tu ne peux pas être de ceux qui ne veulent pas entendre. Parce qu'il t'a été donné à toi de comprendre ces choses. Sa peine de voir un peuple qui ne comprenait pas l'importance de cette parabole l'a emmené à pleurer. Parce que voyez-vous, les mystères du royaume des cieux sont simples. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas très compliqué finalement. Ça demande juste de l'obéissance. Ça demande de prendre la parole, de la manger, d'obéir. Comment la pratiquer? Et voir que les gens ne comprennent pas alors qu'ils sont des érudits de la parole. Et la Bible dit, le royaume des cieux est comme ceux qui ont le cœur comme ses petits-enfants. Ça veut dire que si les petits-enfants peuvent comprendre, comment nous, on ne peut pas comprendre? Jésus désire plus que tout qu'on porte du fruit. La preuve que notre cœur est humble et obéissant, ce sont les fruits que nous portons. Au verset 23, il dit, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Ne me dis pas, mon cœur est bon. Non, laisse-moi voir tes fruits. Montre-moi tes fruits. Là, je saurai discerner si ton cœur est bon. C'est comme ça que Jésus mesure. Pas on dit on est bon. Marchandise vantée par soi-même. Bon, trois petits points. Jésus dit ici que le semeur a semé. Il a fait sa part. La semence est de bonne qualité et il garantit la semence. Dieu reconnaît sa parole et il juge tout sur sa parole. Elle est incorruptible. Sa qualité est incontestablement approuvée. On ne peut pas la discuter. Par contre, il ne peut pas garantir la terre. Ça dépend de nous. Ça dépend de toi. Il dit, moi, je peux garantir le semeur qui va semer. Je peux garantir la semence, mais la qualité de la terre, ça dépend de toi et moi. La bonne terre produit du fruit en abondance. La seule variante dans cette parabole, c'est le champ ou le sol ou le terrain. C'est la seule variante. La bonne terre produit du fruit en abondance. 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 1000. Les disciples découvrent que le royaume des cieux est une histoire de multiplication et non d'addition seulement. C'est 1 pour 30, 1 pour 60, 1%. C'est-à-dire quoi? 3000%, 6000%, 10000%. Imaginez ceux qui sont en bourse. Quand tu places... Et déjà, tu as 10%, tu es content. Imaginez 1000%, 3000%. C'est un exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semence qui tombe dans une bonne terre, sa récolte est éternelle. La récolte, les fruits parlent même après qu'on ait passé cette terre. Nos fruits se manifestent dans nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ça, c'est la puissance que la semence a lorsqu'elle tombe dans une bonne terre. Elle s'élargit, elle se multiplie. En d'autres termes, le semeur sème et sa récolte continue dans le temps et les années. C'est rien. En conclusion, je vais demander aux bandes de venir. Gloire à Jésus. En d'autres termes, nous sommes responsables de quoi? De nos cœurs. Tu ne pourras pas dire, mais Seigneur, c'est lui qui m'a énervé. Oui, tu as le droit d'être énervé. La Bible dit, lorsque tu te mets en colère, ne pêche pas. Ou si tu te mets en colère, ne pêche pas. Donc, nous sommes responsables de nos cœurs. Tu es responsable de ton cœur. Ne prends pas de décisions qui ne sont pas alignées à la parole et puis tu viens devant Dieu et tu dis, c'est lui, c'est parce que le banquier, c'est parce que la maîtresse, c'est parce que le frère, c'est parce que le pasteur. Question. Jésus n'a pas identifié le semeur, mais vous avez compris. Le semeur sème. Peu importe la terre, il sème. Le semeur a une certitude. Je te remercie. Le semeur a une certitude. La semence. Et le semeur, il donne la semence. Il ne sait pas où il va y avoir un retour de 30 pour 1, de 60 pour 1, 1000 pour 1. Il ne sait pas. Mais il a une certitude que au moins une partie de l'audience est une bonne terre. Alors il sème avec assurance. Notre travail devant Dieu, c'est de comprendre quel est le sens de cette parabole. Pour la foule, elle met en évidence le danger d'être des auditeurs passifs qui n'obéissent pas à la parole, qui ne la mettent pas en pratique. Elle a pour but de faire une introspection pour savoir quel type de terre tu es. Pour les disciples, elle nous encourage à persévérer, à ne pas abandonner, à ne pas rechercher absolument les conversions massives. J'ai eu le privilège d'être dans des grosses conférences de Reinhold Bonnke, Yonggi Cho. J'en ai vu. Et j'ai toujours posé cette question au Seigneur. Sur ces 1 million de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, combien sont encore accrochés à toi? Est-ce que l'évangéliste Reinhold Bonnke a mal fait? Non, lui c'est un semeur. Il a fait sa part. Et Dieu le récompense. L'a récompensé. David Yonggi Cho, pareil, il a fait sa part. Dieu l'a récompensé. Mais, pour beaucoup, j'ai entendu Jésus pleurer. Ne soyons pas de ceux qui font pleurer Jésus. C'est un privilège d'être là où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup ont foulé cet endroit et sont partis en foulant. Que Dieu fasse ce qu'il désire, qu'il les bénisse. Les épreuves viennent dissocier les terrains. Quelle terre es-tu ce soir? On va prendre un temps. On va juste prendre un temps et parler au Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, révèle-moi quel type de terre je suis afin que je sache comment travailler cette terre que je suis pour te glorifier. Préparons le terrain. Nous avons entendu cette série sur la lumière que Christ est pour nous. Comment cette série peut nous être bénéfique? C'est si nous acceptons de travailler notre terre, d'arracher les épines, d'enlever les ronces, de préparer cette terre afin qu'elle puisse produire du fruit. Préparons nos cœurs afin que nos vies brillent et manifestent la lumière qu'est Jésus-Christ dans nos vies. Et au semeur, ne te décourage pas. Dieu t'a choisi pour semer, alors sème. Serviteur, ne te décourage pas, car Dieu t'a choisi pour servir, alors sème. Celui qui enseigne la parole est un semeur, alors sème. À ton niveau, sème.